mardi soir, le président américain Donald Trump a dévoilé son plan de paix pour le Proche-Orient, baptisé « Accord du siècle ». Ce plan propose notamment d'entériner la souveraineté israélienne sur les colonies de Cisjordanie et prévoit un plan de négociation sur 4 ans pour parvenir à la création d'un État palestinien démilitarisé aux côtés de l'État d'Israël. Salué comme historique par Israël, ce plan a été jugé inacceptable par l'autorité palestinienne qui appelle au boycott. Les réactions internationales, quant à elles, sont mitigées. Bonjour Elias Sambar.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité.
Vous êtes écrivain, diplomate, ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO depuis 2006, témoin et acteur politique de premier plan de l'histoire palestinienne. Un projet gagnant-gagnant, a dit le président américain, pour les deux parties, a-t-il dit. Et pourtant, on a bien vu, historique d'un côté, Benjamin Netanyahou, inacceptable de l'autre, Mahmoud Abbas. Est-ce que c'est sans surprise des deux côtés, ces réactions, pour vous ?
Vous savez, ce plan de paix est enrobé de très belles phrases et on ne peut pas s'y arrêter. Ça ne suffit pas de qualifier n'importe quelle broutille, parce que c'est une broutille d'historique, pour qu'elle le devienne. C'est un plan qui vise à légaliser définitivement, il vise, je ne sais pas s'il réussira, mais qui vise à légaliser définitivement les faits accomplis, c'est-à-dire une situation de facto d'apartheid va devenir, si cela marche, une situation permanente d'apartheid. Pourquoi je vous dis cela? On vous parle que les Palestiniens vont avoir un État. Mais, comme d'habitude, on n'a pas envie de se perdre dans les détails qui sont pourtant cruciaux. Le fascicule présentant le plan fait 120 pages. Donc, il faut bien le lire. Je vais m'arrêter, je ne vais pas entrer dans les 120 pages, je vais vous donner quelques points qui sont tout à fait décisifs. Il n'y a pas d'État, où que ce soit, en Palestine ou ailleurs. Il n'y a pas de souveraineté, où que ce soit. En Palestine ou ailleurs, sans un contrôle des frontières par cet État et sans une continuité territoriale sur laquelle s'étend la juridiction de l'État. Ça n'existe pas. Or, là déjà et d'ores et déjà, on vous annonce dans ce fameux plan historique qu'il n'y aura jamais de contrôle palestinien sur les frontières. Alors on peut appeler tout ce qu'on veut État. Ça n'est pas un État. Donc pas de légitimité sur les frontières, pas de continuité. Et là, on n'a pas fait attention au vocabulaire. C'est un vocabulaire qui circule depuis quelques années déjà. Très, très souvent, et ça a commencé avec Bush fils, les Américains font semblant de faire un lapsus et en parlant, remplacent le mot continuité par contiguïté. Un territoire fait de contiguïté n'est pas un territoire continu. Et si vous regardez le plan que Trump a distribué, la carte qui a été distribué avec son projet, nous avons déjà 17 tunnels, dont certains de 100 kilomètres, pour rejoindre certaines parties de cet espace déchiqueté. Donc un espace déchiqueté, entouré de frontières totalement entre les mains d'Israël. Pas d'espace aérien, pas ainsi de suite. Donc vous voyez, il n'y a pas de projet d'État. Et cerise sur le gâteau, quand nous avons été à Madrid, moi j'étais à Madrid et après j'ai participé pendant 6 ans aux négociations. Il y avait une sorte de procédure magique que les Américains avaient inventée, qui était déjà mortelle, mortifère pour la paix, qui est que vous allez signer un accord, mais il ne s'appliquera qu'au terme d'une période transitoire de 4 ans. Nous avons commencé la période transitoire en 93, nous sommes en 2020, elle n'est pas terminée. Et pourquoi elle n'est pas terminée? Parce que dans les règles, on regarde souvent les déclarations d'intention, on ne fait pas attention aux procédures. Dans les règles édictées déjà par le plan de paix à l'époque, ou la proposition américaine, l'occupé était un étudiant en examen perpétuel et l'examinateur était l'occupant. Donc il fallait remplir des conditions. Si elles étaient remplies, on arrivait à quelque chose de concret en 4 ans. Ça nous fait maintenant presque 30 ans. 30 ans sans rien. Et là, on nous repropose la formule magique des 4 ans. Oui, vous allez avoir une capitale, un État, mais il y a des conditions à remplir. Si vous regardez les conditions qui sont énumérées dans le projet, vous verrez que c'est absolument irréalisable. Donc, dire ce projet est favorable à Israël relève presque du comique.
Non, favorable plutôt, vous voulez dire aux Palestiniens. dire que le projet est favorable aux Palestiniens.
Non, mais les commentateurs disent, oui, c'est vrai qu'il est un peu favorable à Israël.
Dans les deux sens.
Et pourquoi vous ne négociez pas? Il n'y a rien à négocier. C'est pas que les Palestiniens ont refusé une offre jouable. Il n'y a pas d'offre jouable. Et je vais vous dire plus. Beaucoup de commentateurs israéliens, et vous imaginez bien que nous suivons quotidiennement, et bien avant la conférence du président Trump, disent ce plan a été conçu de telle sorte à ce qu'il puisse être refusé par les Palestiniens. C'est-à-dire il est plein de conditions impossibles à remplir pour dire voilà, c'est eux qui refusent, et ce qui leur arrive n'est que de leur propre fait. Donc les victimes ne sont pas seulement victimes une fois parce qu'elles sont victimes, les occupés sont des victimes, et sont victimes deux fois parce qu'elles sont responsables de leur malheur et de l'occupation. Nous sommes face à une situation d'élaboration d'un apartheid légalisé, reconnu, et ce qui est le plus inquiétant n'est pas la position américaine, on la connaît, il n'y a pas eu de surprise il y a deux jours. Ce qui est absolument inquiétant, c'est, et je pèse mes mots, la lâcheté politique du monde. Nous n'avons pas eu de réaction, il y a quelques pays arabes qui ont réagi, pas tous. Vous parliez d'une réunion de la Ligue, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Il y aura probablement un communiqué très très dur disant que c'est inacceptable, sauf que la plupart des membres n'ont pas pris position. Je pense par exemple à la position admirable de la Tunisie, du Koweït. Il y a des pays qui ont réagi en disant qu'il n'est pas question de marcher. Et la Tunisie n'est pas un pays de va-t-en-guerre. Mais écoutez la déclaration de leur président avant-hier. Donc nous sommes maintenant face à une situation d'apartheid.
Ça fait quatre fois que vous utilisez le mot. Tout à l'heure, vous disiez, il faut faire attention au vocabulaire. Vous savez que ce terme est contesté par beaucoup de personnes et que vous risquez d'exclure même parmi ceux et celles qui nous écoutent, qui disent, il ne peut pas utiliser ce terme-là.
Eh bien, voilà. je vais vous donner la réaction de deux personnalités israéliennes. L'un est Yossi Begin, qui a été vice-premier ministre. Et je sais qu'on me répondra immédiatement, tu as choisi un personnage qui convient à ta démonstration, donc on va oublier Yossi Begin. Je vais partir de la déclaration d'un ancien ambassadeur d'Israël à Paris, qui est membre du Likoud, donc du parti de M. Netanyahou, et qui disait toute son inquiétude face à cette situation. Pourquoi ? Si ce plan s'applique, et dans le rapport des forces actuelles, il pourrait être, non pas appliqué, mais imposé. C'est-à-dire que les Palestiniens n'auraient pas moyen d'y mettre fin. Qu'est-ce qui va se passer? Israël va avoir le pouvoir total sur une population d'à peu près 4 millions d'individus et de personnes. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va les gérer. Il va être obligé de les gérer. Ils sont là. N'est-ce pas? Bon. Qu'est-ce qui se passera? Et c'est ce qui inquiète ces personnages. Qu'est-ce qui les inquiète? C'est qu'au bout d'un certain temps, ces 4 millions de personnes, comme cela s'est passé en Afrique du Sud, commencent à réclamer non pas un État, non pas une souveraineté, mais les droits civiques. Nous pourrions commencer maintenant une campagne pacifique en disant, puisque nous sommes là, puisque vous êtes le pouvoir, puisque vous avez pris toute la terre, eh bien nous voulons le droit de vote. Vous dites que vous êtes la seule démocratie de cette région. Nous voulons le droit de vote. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment? Ce qui va se passer à ce moment, et c'est ce qui inquiète certains Israéliens, très Israéliens, c'est qu'Israël va perdre son caractère fondateur d'État des Juifs. Ça sera juste une composante de la société israélienne.
C'est pour ça, Elias Sambar, que Haaretz titrait hier, Trump vient de donner à Israël le baiser de la mort.
C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Il y a beaucoup de réactions. Et je prévoyais comment certains de vos auditeurs allaient réagir en disant c'est de la propagande, etc. Allez voir un peu comment parlent certains partisans, hein, y compris dans le parti de Netanyahou. Ils sont très très inquiets. Maintenant, il va y avoir une ivresse du moment. Trump nous a tout donné, on va faire, etc., etc. Il y a un autre sur le vocabulaire. Juste un dernier point, et je pense qu'il est crucial et qu'il passe inaperçu. Israël dit, et d'ailleurs la conférence de presse et le texte est plein d'éléments se rapportant à la question de la sécurité de l'État d'Israël. Donc la sécurité aux frontières. Israël a toujours dit la rive du Jourdain, donc le fleuve qui est entre Israël et la Jordanie, est une rive sécuritaire absolue. Jamais nous ne la céderons. S'il y a un État palestinien, jamais nous ne lui céderons la rive. Sauf que dans tous les discours, tous les discours. On ne parle pas de la rive ouest du fleuve, on parle de la vallée du Jourdain. La vallée du Jourdain, c'est les deux rives. C'est-à-dire qu'il y a déjà un danger qui commence et qui vise le royaume de Jordanie. Et les Jordaniens, je peux vous le dire, parce que nous sommes en contact, en travail constant avec eux, à l'UNESCO et ailleurs, sont extrêmement inquiets de ce sacrifice qui commence à s'amorcer, qui vise à faire payer au roi de Jordanie son royaume, en échange d'une solution qui serait basée sur un déplacement doux, pas forcément sous la forme de 48, pas sous la forme d'une expulsion massive, mais petit à petit, qu'il puisse dire, à ce moment, la Palestine est à Amman, elle n'est ni à Abu Dish, ni à Jérusalem, ni à Ramallah, ni à Jéricho. C'est un plan extrêmement dangereux et c'est pour cela que les Jordaniens sont extrêmement inquiets, je peux vous le dire.
Oui, mais Elias Sambar, dans ces conditions, comment expliquez-vous, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais comment expliquez-vous que ce plan n'est pas déclenché, tollé, ni à l'international, ni même dans le monde arabe, en tout cas pour l'instant?
Il faut commencer par le monde arabe parce que je pense qu'il y a une responsabilité lourde.
C'est un peu comme si la cause palestinienne était passée au second plan après avoir été le centre sismique de la région.
On l'entend souvent, y compris dans la diplomatie française, cet argument. Vous savez, la région est à feu et à sang. Vous comprenez que aujourd'hui les priorités ne sont pas chez vous. Nous ne pouvons pas réagir. Regardez la situation en Syrie, maintenant au Liban, l'Irak, le Yémen, la Libye, et ainsi de suite. C'est vrai ? C'est vrai ? Sauf que ça fait 30 ans que nous attendons et que ça n'est pas le désastre depuis 30 ans. Alors, on va dire il y a 5 ans, 7 ans de désastre. Et pendant les 20, 23 ans précédents, qu'est-ce qui a été fait ? Rien. Rien. Pourquoi les Européens ont-ils accepté d'être seulement confinés au rôle de tirelire, du processus de paix ? Le processus est financé par l'Europe. Les États-Unis ne le financent pas, c'est pas vrai. Et pourquoi ils ne disent pas, nous avons droit à une voix politique au chapitre ? C'est nous qui portons le processus de paix avec l'argent de nos citoyens, de nos contribuables. Rien. Ils ont toujours été confinés à ce rôle. Il y a donc, par rapport à cette question du poids de la communauté, et je vais revenir aux Arabes, de la communauté internationale, ou l'Europe, puisque nous sommes quand même en France, il y a le fait qu'ils se retirent par avance avant que les Américains ne tapent du poing sur la table. C'est une constante, on peut l'analyser pour chaque pays, il n'y a pas une seule raison pour tout. Les pays occidentaux, mais tous ont de bonnes raisons de s'écraser. Je pèse mes mots, hein. Je connais bien votre langue et je sais ce que ça veut dire s'écraser.
J'entends que vous pesez à chaque fois vos mots.
Ils s'écrasent. Et là, il y a une responsabilité lourde. Et bien entendu, une fois que le désastre sera là, ils diront leur regret et le regret éternel qui est, vous savez, la formule qu'on emploie dans les enterrements.
Donc pour les mondes arabes, pour le monde arabe, est-ce que la question iranienne a remplacé la question palestinienne ?
Le monde arabe, l'unité du monde arabe autour de la Palestine est terminée. Arrêtons de parler de choses qui ne sont plus là. Elle est terminée, l'argument massue qu'on entend en permanence, c'est le fait qu'il y a le danger iranien, ainsi de suite. Il faudrait rappeler à nos frères arabes qu'avec ce plan, les États-Unis viennent de donner toute la région à l'Iran. Toute la région à l'Iran. Parce que tous les mécontentements dans les sociétés vont se rallier à Téhéran et pas à Washington, ni à Netanyahou, ni au Caire, ni à Damas, ni. Ils viennent de céder la région aux Iraniens et ça, c'est également un désastre et on le verra. Par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a au niveau du monde arabe une sorte de réaction au sens des choses réactionnaires, de reprise en main. Après la panique engendrée par les printemps arabes, nous sommes en train d'assister à une reprise en main très très violente des sociétés. Et c'est cela qui est la priorité. Et c'est pas la question qu'il y a des crises et que la région est difficile. Et c'est vrai que l'Iran... Mais il y a eu une panique au niveau des pouvoirs dans les pays arabes avec le déclenchement des printemps arabes. Donc nous assistons à une série de facteurs qui un peu explique ce silence. Certains même nous disent que nous n'arrêtons pas de perdre parce que nous comprenons pas où sont nos intérêts. Alors c'est très très beau, hein, entendre ça d'un pays pétrolier milliardaire, de nous dire à nous qui souffrons depuis un siècle dans ce conflit que nous ne savons pas où sont nos intérêts et que nous sommes plutôt dans la bêtise politique. Mais passons, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que avec ce plan, une phase très dangereuse est en train d'être enclenchée, et c'est pas forcément parce qu'il y aura des manifestations à Jérusalem ou à Ramallah ou à Naplouse. C'est sur le plan régional, les Américains, de façon complètement inconsciente et irresponsable, viennent de donner la région à Téhéran.
France Culture, les matins du samedi. Caroline Brouet.
On retrouve notre invité, l'écrivain, intellectuel, diplomate, ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO, Elias Sambar. Elias Sambar, j'ai sous les yeux un livre qui va paraître jeudi prochain dans une nouvelle collection intitulée Araborama et coédité par Le Seuil et l'Institut du Monde Arabe, qui a pour titre « Le monde arabe existe-t-il ?» entre parenthèses, encore. Et vous entendant, il y a quelques minutes maintenant, parler de cet éclatement du monde arabe, du fait notamment de la reprise en main dans certains pays après les printemps arabes d'un côté, et puis peut-être quand même de la question iranienne qui a pris le dessus sur la question palestinienne. J'avais envie de vous poser cette question. Vous y participez, hein, dans ce livre, vous avez accordé un entretien au journaliste Christophe Ayad. Le monde arabe existe-t-il encore ?
La réponse du contenu de ce numéro est oui. Le point d'interrogation n'appelle pas une réponse négative, à savoir que le monde arabe n'existe plus. Il est dans une passe très très compliquée. Je ne ferai pas de pronostic parce que c'est pas sérieux, mais nous sommes dans une phase qui ressemble à un changement de monde. Non pas une étape, non pas une période, un changement. Nous sommes dans un changement de monde qui a été amorcé par les printemps arabes, qui ne sont pas terminés, qui ont commencé, qui ont déclenché des ripostes un peu partout de régimes plus ou moins despotiques, selon les pays concernés. Et nous sommes encore dans une évolution très compliquée. Et je pense beaucoup, beaucoup en ce moment, à ce qui s'est passé en 1492. En 1492, c'est du hasard, hein, on ne va pas tomber dans des calculs complotistes, mais quand même c'est très très étrange que la même année, Grenade tombe et marque la fin d'une forme de culture, du métissage, portée à son plus haut degré et sa plus belle expression. La même année, Colomb découvre l'Amérique et le génocide commence. Et les historiens, est-ce qu'ils avaient calculé un peu le poids de leurs mots, disent c'est le début des temps modernes. Et c'est vrai que les temps modernes ont été une succession de génocides. Je ne dis pas qu'on va avoir des génocides, mais je pense que nous sommes à la veille d'un changement des temps. Mais je voudrais juste, si vous voulez, simplement, j'ai oublié de vous lire tout à l'heure, l'ambassadeur en question que j'ai cité est Avi Pazner, qu'on ne me dise pas que j'invente des personnages fictifs. Et je suis très très content que, en présentant la chronique que nous venons d'entendre, vous ayez dit d'ailleurs, qui porte d'ailleurs sur les Indiens d'Amérique.
À propos d'ailleurs, c'est dans cette d'ailleurs, chronique, oui.
Le d'ailleurs me plaît beaucoup, car nous sommes les peaux rouges de Monsieur Trump. Le d'ailleurs était tout à fait à sa place.
Elias Sambar, à propos de cette longue histoire des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens, à laquelle vous avez étroitement participé, puisque vous le rappeliez, vous étiez en 92 aux négociations de paix à Washington, des négociations qui à l'époque étaient encore bilatérales. Vous avez œuvré pendant 4 ans à aboutir à l'obtention de la reconnaissance de la Palestine comme étant membre de l'ONU en 2011. Est-ce que vous diriez que la diplomatie dans ce travail, dans ces négociations, a encore un rôle à jouer?
Vous savez, j'ai eu un très grand ami qui était Stéphane Hessel. J'ai fait la connaissance de Stéphane Hessel grâce à Madeleine Rebériou, qui nous avait invités tous les deux à une tribune.
Très grande historienne, Madeleine
voilà.
Rebériou.
Et j'avais trouvé Stéphane extrêmement naïf, parce que j'avais une vision beaucoup plus noire. Il passait son temps à rappeler le droit international. Attention, non. Aujourd'hui, je suis plus sur les position de Stéphane que des miennes à l'époque. Pourquoi ? Aucun état de force ne peut être éternel. Aucun rapport de force ne peut être éternel. À un moment donné, vous retrouvez à une table. Et si vous avez emmagasiné des rappels et des consolidations de principes, c'est en vertu de cela que les choses se dérouleront. Donc, on m'a souvent dit que j'étais quelqu'un d'absolument naïf, parce que moi, pendant 16 ans, j'ai fait voter à l'UNESCO des résolutions qui étaient très critiques des comportements de la puissance occupante à Jérusalem, puisque Jérusalem est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO. Oui. À l'UNESCO, l'humanité. Et on me disait, qu'est-ce que tu fais? Une collection de papiers, puisqu'Israël, en tout cas, n'appliquait rien. Mais à un moment donné, on va se retrouver à la table. Et moi, j'aurai tous mes papiers à la table. Je dirai, voilà les principes. Vous savez, pendant toutes les négociations, et j'étais chef de la délégation palestinienne, que me disaient les délégués américains? En substance, nous n'aimons pas le droit international. Pourquoi est-ce que tu ne t'installes pas, toi et ton homologue ou la contrepartie israélienne, et que vous écriviez vous-même vos termes de référence? Dans une situation d'occupant et d'occupé, un terme de référence n'est que l'expression du rapport des forces. Et ça, les Américains le comprennent très très bien. D'ailleurs, ils fonctionnent que comme cela. Et je me suis entêté sur le principe. Les réfugiés, parce que je négociais la question du retour, ne sont pas rentrés. Mais les principes ont été sauvegardés. Tout le but, pendant 4 ans de la négociation, n'était pas de me dire « c'est fini », etc. Mais de me dire « change de terme de référence ». Laisse-nous en paix, toi, avec tes résolutions de l'ONU et tes principes. Soyez réaliste, vous n'allez pas pouvoir, etc. Vous n'allez pas pouvoir, ça veut dire, tant que le dominant domine, vous devez accepter. Et puis, il y a beaucoup de peuples qui, pendant que leurs dominants dominaient, n'ont pas accepté. Et au bout du compte, ils sont aujourd'hui indépendants et libres. Donc, c'est une histoire très longue. C'est une histoire d'obstination, mais pas d'obstination au sens négatif, c'est une question d'obstination par rapport au droit. Et je crois que je n'ai rien d'autre à faire aujourd'hui que cela. Continuer à me battre sur les principes, parce qu'au bout du terme, à moins que ce soit la jungle, à ce moment ça va être la pagaille pour toute la planète, mais au bout du compte, s'il faut qu'il y ait une solution, il faudra qu'il y ait des règles, et nous sommes en train d'emmagasiner et de rappeler et de faire endosser les règles. C'est comme cela qu'on a pu entrer en tant qu'État à l'UNESCO. Vous savez, les Américains m'ont dit 20 fois, fais une candidature en tant qu'autorité nationale, on vote pour toi. J'ai dit, l'UNESCO n'a pour membres que des pays membres, il n'a pas des associations ou des institutions. Israël me disait, pas de problème, entre en tant qu'autorité nationale palestinienne, c'est-à-dire un organe transitoire. Mais nous sommes entrés en tant que pays membres. C'est le seul endroit au monde, d'ailleurs, où la Palestine est admise en tant que pays membre. À l'ONU, la reconnaissance est encore incomplète. Le seul endroit au monde est à l'UNESCO. Mais ça a été une bataille féroce. Ça n'a pas été simple. Et accompagné de beaucoup de menaces. Mais nous étions convaincus que nous avions ce droit. Et nous sommes arrivés. Mais ça fait 16 ans. Donc, pour vous dire que c'est une question de souffle aussi.
Elias Sambar, puisque vous parlez de persévérance et de droit, on a appris cette semaine la mort de l'avocat Théo Klein. Il avait 99 ans.
Oui.
Théo Klein, figure du judaïsme libéral et laïque, ancien président du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, et inlassable défenseur de la paix au Moyen-Orient. Est-ce que c'est une conscience qu'on ne voit plus beaucoup à l'œuvre aujourd'hui?
Vous savez, je l'ai bien connu.
Vous l'avez bien connu, oui.
Et je dois dire que notre relation a changé du tout au tout. C'est au départ, c'est une relation extrêmement contradictoire. Hein, et petit à petit, ça a évolué des deux côtés. Je l'ai vu même à la fin, et je l'appréciais beaucoup parce que il y avait du courage. Il n'était pas de mon bord. Il n'avait pas totalement ma vision des choses. Mais avec lui, j'aurais pu vivre. Comprenez, c'est cela la grande question. Avec lui, j'aurais eu aucun problème à vivre. Et il y a beaucoup d'Israéliens qui sont comme lui. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas au pouvoir. Aujourd'hui, c'est les colons qui tiennent l'État d'Israël. Quoi qu'ils en disent et qu'ils nous sortent tout le temps cette litanie de la démocratie, c'est les colons qui tiennent le pays. Et c'est eux qui ont applaudi aux dernières propositions de Trump.
Elias Sambar, je voudrais quitter, même si on va y revenir d'une certaine façon, la politique, pour me tourner vers votre casquette d'écrivain, poète, traducteur d'un immense poète que fut Mahmoud Darwish,
oui.
Disparu en 2008, puisque fin février, vous allez participer à un week-end qui lui rendra hommage à la Philharmonie de Paris, à Mahmoud Darwish.
Oui, vous savez, c'est un travail à partir d'un poème, une pièce magnifique, épique, qui est une sorte d'odyssée. Et le titre, d'ailleurs, de ce poème, c'est « La terre se transmet comme la langue ». Et ça fait 2 ans que nous travaillons avec un jazzman formidable, il n'y a pas d'autre terme, hein, qui a écrit la musique, qui est vibraphoniste, qui est Franck Tortier, qui a été à un moment donné le directeur de l'Orchestre National de Jazz, qui a de très très belles compositions. 7 musiciens. Il y aura des parties qui seront récitées,
que vous allez réciter.
Il y a des parties chantées par Dominique De Vals. Donc, c'est un concert sur une pièce qui va durer à peu près 1 heure et demie et qui est une pièce épique et dans laquelle, et c'est cela qui va être très très beau, bien sûr, nous l'avons déjà beaucoup répété, ce qui va être très très beau, c'est que, pour une fois, nous ne sommes pas dans le sous-titrage musical. Vous savez, on m'a demandé hier, qu'est-ce que vous voulez comme musique, en s'attendant que je dise je veux du oud ou du luth ou je sais.
On s'attendait à rien du tout.
Non, mais c'est ce que tout le monde s'attend. Tout le monde s'attend à ce que, bon, il vient, c'est un arabe, on va lui mettre un peu de musique arabe. Et personne ne sait que nous sommes également très mélomanes et dans beaucoup d'autres secteurs. Bref, je ferme cette parenthèse.
On verra tout à l'heure.
Mais ce que je voulais vous dire, c'est une très belle pièce dans laquelle, comme le poème est une ligne de fuite, Le poème est une possibilité d'aller ailleurs. Tous les poèmes, tous les grands poèmes. Et c'était la chose qu'on a décidée. Je lui ai dit, s'il te plaît, ne sous-titre pas, ne souligne pas. Si ce poème te permet d'aller ailleurs, fais cet ailleurs. Et vous allez voir, ça va très très loin.
Les 28 et 29 février, donc ce sera tout un week-end après. Spectacle, mais il y a d'autres choses.
Oui,
il y a
débat
autour de Mahmoud Darwish, de son héritage et de sa mémoire à la Philharmonie de Paris. Donc restez avec nous, il est 8h46 sur France Culture. Et on entre dans le dernier quart d'heure de ces matins du samedi par l'idée culture.